vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie, là, sur nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien sur Canal Sud 92.2, c'est Tapage, une émission sur les violences judiciaires. Ce mois-ci, on clôt notre série d'émissions sur la justice antiterroriste. Après une émission avec Vanessa Conaccioni sur la répression par les États et un entretien avec B, l'un des condamnés dans l'affaire du 8 décembre, on reçoit ce mois-ci Kamel Daoudi, assigné à résidence depuis 17 ans. Avec lui, on va voir comment des décisions administratives prennent le relais de la justice pour instituer une peine après la peine et le cercle vicieux de la qualification terroriste qui permet de justifier à vie des atteintes à la liberté.
Alors Kamel, tu as été arrêté en 2001 parce que tu étais soupçonné de préparer un attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris. Tu as été déchu de ta nationalité française pendant l'instruction et tu as été condamné à 6 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ainsi que à une peine complémentaire, à savoir une interdiction définitive du territoire français. Libéré en 2008, tu es immédiatement enfermé dans un centre de rétention pour être expulsé en Algérie. Mais la mesure est bloquée en 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme parce que tu encours là-bas des risques de torture. Et depuis, tu es assigné à résidence. Du coup, ça va donc être là notre première question. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est que l'assignation à résidence ? Pour quelles raisons cette assignation à résidence a-t-elle été décidée ? Qui a pris la décision ? Voilà, ce genre de choses.
Alors, en fait, je suis assigné à résidence depuis fin avril 2011. Je suis condamné à 9 ans ferme en première instance par le tribunal de grande instance de Paris. Et cette condamnation de 9 ans est ramenée en cour d'appel à 6 ans ferme, ce qui est plutôt exceptionnel en la matière, puisque ça fait un tiers de peine. Donc là, j'effectue ma peine dans son intégralité. Et je suis libéré théoriquement le 21 avril 2008, mais je suis placé sous écrou extraditionnel. Donc je me retrouve libre, mais menotté, et je pars en direction de la préfecture de Paris.
Donc, et ça veut dire que la police aux frontières, c'est ça, la PAF vient te chercher directement dans la cour de la prison. Tu n'as pas l'occasion de sortir.
Alors, en fait, à partir du greffe, je suis pris en charge par le, je crois que c'est le RAID ou le GIGN, je ne sais plus. Donc, je suis pris en charge directement par des hommes cagoulés, lourdement armés, et je suis emmené immédiatement, à la préfecture de police de Paris. Là, on me retire donc officiellement mes papiers, et donc je suis emmené toute sirène hurlante vers le centre de rétention administrative de Vincennes. Donc, qui est situé à côté de l'école de police de Paris, et donc là, on me signifie que je vais être expulsé. Dès qu'un avion sera disponible. Donc en fait, moi j'avais fait une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je l'avais déposée au greffe de la prison. Alors je crois que c'est la prison de Fresnes, hein, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, ce document-là n'est pas transmis par le greffe. Donc je suis obligé en catastrophe de rédiger une nouvelle requête. À l'intérieur du centre de rétention administrative. Et donc là, j'apprends quelques jours après que ma requête est étudiée sur la forme en urgence et que la Cour européenne des droits de l'homme décide de demander à la France de sursoir donc à mon expulsion vers mon pays de naissance, à savoir l'Algérie. Et donc, je suis placé à l'issue donc de mon passage en centre de rétention administrative, je suis placé en assignation à résidence et on me demande de rejoindre la ville d'Aubusson dans la Creuse dans la journée. Donc je sais, à l'époque, j'ai une carte téléphonique avec une dizaine d'unités, j'ai quelques dizaines d'euros. Et je dois me rendre dans la journée dans une ville que je ne sais absolument pas située géographiquement. Donc j'ai à peine le temps de passer voir ma famille qui se trouve en région parisienne et à trouver une manière de me rendre dans la Creuse accompagné de mon frère. Et à l'époque, il y avait un ou deux journalistes. Embedded, j'allais dire. Et donc, j'arrive dans la nuit dans la commune d'Aubusson. Et là, je dois déjà effectuer mon premier pointage au groupement de gendarmerie d'Aubusson.
Et justement, comment la décision a été prise? Pourquoi Aubusson dans la Creuse? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons en fait
Alors en fait, la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'elle prend la décision, elle dit à l'État français de sursoir à sa décision de m'expulser en attendant que le dossier soit étudié sur le fond. Donc là, le ministère de l'Intérieur décide de m'assigner à résidence. Ce que j'ai compris en fait par la force des choses, c'est qu'en gros, une personne qui a plutôt un profil d'urbain, on l'envoie dans un territoire rural, éloigné de tous ses soutiens potentiels, familiaux, amis. Et donc, on lui instaure plusieurs conditions en fait de contrôle et de surveillance, à savoir donc des pointages quotidiens. Donc, à l'époque, je suis à deux pointages quotidiens. J'ai l'obligation de résider sur le territoire de la commune, stricto sensu. Et donc, le ministère de l'Intérieur prend en charge mon hébergement dans une chambre d'hôtel. Et également ce qu'ils appellent les frais de bouche, donc à savoir les repas, les deux repas quotidiens. Et donc j'ai une obligation de pointage au groupement de gendarmerie d'Aubusson deux fois par jour. À l'époque, je n'ai pas de couvre-feu. Ça va venir ultérieurement. Et donc en fait, concrètement, je reçois un arrêté d'assignation à résidence qui est signé par le ministère de l'Intérieur. Où sont définies les conditions de mon assignation à résidence, à savoir ne pas quitter la commune, pointer deux fois par jour, résider obligatoirement dans la chambre d'hôtel que le ministère de l'Intérieur a louée par le truchement de la préfecture. Donc à l'époque, c'est plutôt une sous-préfecture d'Aubusson qui est dans la préfecture de la Creuse. Et en gros, je ne dois pas quitter le territoire. J'ai des obligations de pointage quotidiennes, donc 2 fois par jour. Et voilà, à peu près.
Et alors ça, donc c'est ta première assignation à résidence à Aubusson. Oui. Et après, on a compris que tu avais été déménagé un certain nombre de fois, que les oui. conditions de cette assignation à résidence avaient beaucoup changé. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cadre ? Est-ce qu'il y a des raisons à chaque fois à ce qu'on te change complètement de lieu, qu'on décide que tu pointes 3 ou 4 fois ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu toutes ces mesures qui s'ajoutent et qui changent oui. et pourquoi elles changent, si tu le sais ?
Donc en fait, moi, il se trouve que je rencontre la femme qui deviendra par la suite mon épouse et avec qui j'aurai 3 enfants. Je la rencontre assez rapidement. Je lui explique ma situation. Moi, à l'époque, je suis assez confiant. Je me dis que cette mesure d'assignation à résidence, ça ne va pas être éternelle. Et puis qu'à un moment, vu que c'est une mesure administrative, mais qui est en fait adossée à une décision judiciaire, je me dis bah, que j'ai la possibilité de demander à ce que cette décision d'interdiction définitive du territoire français soit relevée, et je suis plutôt confiant. Donc je dis à celle qui va devenir mon épouse que normalement cette situation devrait se résorber au fur et à mesure, parce que je n'ai rien à me reprocher.
Excuse-moi, je t'interromps 2 secondes, ça veut dire que quand tu as cette assignation à résidence, tu ne sais pas pour combien de temps en fait?
Non, non, je ne sais absolument pas. On me dit simplement qu'il faut attendre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Et donc, je suis plutôt confiant. Je me dis qu'a priori, si la Cour européenne des droits de l'homme a demandé à la France de sursoir à mon expulsion, les choses se présentent plutôt bien.
Tu rencontres donc ta future femme?
Voilà, je rencontre ma future femme. Là, ben, je décide avec elle d'habiter donc avec elle. Et donc là, le ministère de l'Intérieur... saisit l'occasion pour me dire, bon bah monsieur Daoudi, vu que apparemment vous ne fréquentez plus votre chambre d'hôtel, il va falloir déclarer votre nouveau domicile. Alors en fait, c'est pas un domicile, c'est un lieu de résidence. Bon, ça peut paraître comme ça un peu technique, mais je n'ai pas de domicile en réalité. À partir du moment où j'ai une interdiction définitive du territoire français, je dispose uniquement d'une résidence. Et en termes de droit, la résidence et le domicile, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, ma femme, enfin celle qui va devenir ma femme, à l'époque, on n'est pas encore mariés, donc fait une déclaration sur l'honneur où elle dit que effectivement, elle m'héberge et qu'elle se porte garante pour assurer mes besoins. Et donc là, le ministère de l'Intérieur en profite pour couper les vivres. Et du coup, bon, il y a une période quand même de transition où je continue encore à aller à la chambre d'hôtel pour m'assurer que la situation va perdurer. Et donc, je finis par vivre avec ma future compagne. Et donc, les choses se passent plutôt bien. Et donc, on vit à peu près 1 année ensemble.
Tu n'as pas le droit de travailler ?
Donc, j'ai le droit a priori de travailler à l'époque, mais je cherche un emploi et bien sûr, je n'en trouve pas, parce que dans une petite commune de quelques milliers d'habitants, ben, je suis connu comme le loup blanc. Et donc, j'éprouve la plus grande difficulté à trouver un emploi. Donc là, ma femme... elle tombe enceinte, et donc le 3 décembre 2009, elle doit se rendre donc à la clinique pour son échographie. Et il s'avère que le 3 décembre, c'est aussi le jour où la Cour européenne des droits de l'homme doit statuer donc sur mon dossier. Les routes sont enneigées, hein, on est en plein hiver en Creuse, il y a au moins 30 cm de neige. Et il est évident que je ne peux pas laisser ma femme partir toute seule à son échographie, conduire toute seule. Donc, je prends la décision de l'accompagner après avoir pointé au groupement de gendarmerie pour le premier pointage quotidien. Donc là, du coup, je dépasse les limites de la commune. La clinique se trouve à 90 km d'Aubusson. Et alors je ne demande pas d'autorisation parce que je crains que ça soit refusé. Donc je pars en me disant que bon bah ça sera un impair et puis on comprendra finalement qu'il y a une circonstance exceptionnelle qui fait que je peux quitter le territoire de la commune. Donc là, je suis arrêté manu militari à 18 km de la commune où j'étais assigné à résidence. Donc il y a à peu près une vingtaine ou une trentaine de gendarmes du PSIG qui demande à ma femme d'arrêter, de s'arrêter. Donc elle est enceinte, hein. Et puis il y a ma belle-fille qu'on a pris avec nous parce qu'on peut pas la faire garder ce jour-là. Et donc je suis braqué en fait devant les yeux de ma femme et de ma belle-fille par la gendarmerie. On me demande de m'agenouiller, de lever les bras en l'air, de m'agenouiller. Et il y a un gendarme qui vient me passer les menottes à l'arrière de mon dos. Et donc là, je suis pris en charge par le groupement de gendarmerie et je suis emmené au commissariat d'Aubusson. Là, on me signifie que je suis mis en examen pour violation d'une des conditions de mon assignation à résidence, à savoir le fait d'être sorti de la commune sans avoir demandé l'autorisation. Et là, en même temps, j'attends la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui doit tomber en fin de matinée ou en début d'après-midi. Donc là, l'officier de police judiciaire vient et me dit « voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». La bonne nouvelle, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a statué en votre faveur. Donc, vous ne serez pas expulsé. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes mis en examen pour votre violation de votre assignation à résidence et que vous devez passer en comparution immédiate devant le procureur pour qu'il statue. Ma femme, on lui fait des pressions parce qu'on la soupçonne de m'avoir aidé à m'enfuir. Mais bon, là, lorsqu'on explique la situation et lorsqu'on apporte surtout les preuves comme quoi bah, elle avait bien rendez-vous ce jour-là à la clinique, qu'il n'y avait pas du tout d'intention de sa part de m'exfiltrer ou quoi que ce soit, aussi bien les gendarmes que le procureur se rendent à l'évidence et comprennent que c'était juste un hasard que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme tombait en même temps que le rendez-vous de ma femme qui avait été pris de longue date. Donc on ne pouvait pas prévoir ce concours de circonstances.
Du coup, toi, tu passes en comparution immédiate, c'est-à-dire très peu de temps après, le lendemain ou sur un
Non, moi, je refuse la comparution immédiate pour pouvoir être défendu correctement. Okay. Et donc, je suis...
provisoire, du coup.
Voilà, je suis placé en détention provisoire dans la prison locale. Et comme je refuse la comparution immédiate, on m'éloigne à 450 km, en fait, dans le Poitou-Charentes, dans une prison près de Poitiers, c'est Vivonne. Et on est en pleine fête de fin d'année. Et donc là, je prends contact avec mon premier avocat, qui va assurer ma défense et je passe dans le courant du mois de janvier, je crois, si mes souvenirs sont bons, au tribunal de Guéret dans la Creuse.
Et tu es condamné, j'imagine. Et
condamné je suis condamné à 6 mois ferme, alors que le procureur avait demandé 1 an ferme. Je suis condamné à 6 mois ferme et je sors au bout de 4 mois pour. Parce que je me suis bien comporté, pour bon comportement. Entre-temps, ma fille naît, elle vient me voir alors qu'elle a 15 jours. Et donc, je sors de prison quelques temps après, donc après avoir effectué les 4 mois et demi de détention. Entre-temps, j'ai fait des démarches auprès de l'OFPRA, et donc l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, et j'ai fait également une requête auprès de la CNDA en appel.
Voilà. Et à la sortie de prison, est-ce que c'est à ce moment-là que tu es envoyé dans un autre endroit pour ton assignation à résidence ou reviens à Aubusson au début?
Non, je ne reviens absolument pas à Aubusson. Ma fille naît en fait le 22 janvier 2010 et je suis condamné le 7 janvier 2010 Et donc, à ma sortie de prison, le 9 avril 2010, je suis transféré dans la Haute-Marne, à Longeau-Percé, donc à 400 km du domicile familial. Et là, on me rajoute en plus un pointage quotidien, donc je passe à 3 pointages par jour.
3 pointages par jour. Et peut-être un couvre-feu, ou c'est encore plus tard ?
Non, c'est plus tard. Je suis de nouveau ensuite transféré dans une autre commune, dans la Haute-Marne, à Longeau-Percé, parce qu'entre-temps, l'hôtel où je suis assigné à résidence ferme. Et donc là, je gagne en plus un pointage quotidien, donc je passe à 4 pointages par jour.
4 pointages par jour, c'est spectaculaire, ça donne forme intégrée dans tes journées, tu peux rien faire entre chaque pointage.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on vit au rythme des pointages. Un pointage à 8h45, un autre à 11h45, un autre à 14h45 et le dernier à 17h45. Et on passe sa journée à pointer. Et donc ma femme et ma fille et ma belle-fille continuent de venir me voir pratiquement tous les week-ends et pendant les vacances scolaires.
Pardon, ce qu'on comprend, c'est que du coup, là, tu as purgé ta peine, tu es toujours en attente de savoir si tu vas pouvoir obtenir un statut de réfugié ou qu'est-ce qui se passera après si donc la CNDA a refusé de te donner ce statut. Et on t'impose des mesures complètement vexatoires qui sont de t'éloigner de ta famille, de multiplier les pointages pour t'empêcher absolument toute vie.
Et pour dissuader surtout ma femme de rester avec moi, parce qu'il y a cette pression qui est exercée sur elle. Constamment. Il y a eu des pressions indirectes pour l'amener à se séparer de moi et à me laisser tout seul.
Et ce que je trouve assez spectaculaire dans cette histoire, c'est que donc tu arrives, tu es à Aubusson, tu connais personne, tu rencontres quelqu'un, tu essayes d'installer une normalité. Pour un truc aussi bête que d'accompagner ta femme à la clinique, tu retournes en tôle. À partir de là, on te met des conditions encore plus difficiles pour faire une vie et cette espèce de cercle vicieux où à chaque fois on va renforcer ces mesures difficiles qui vont faire qu'il y a bien un moment où tu vas rater ton rendez-vous, enfin ton pointage, ou tu vas essayer de faire autre chose. Et ce sera une occasion encore de te transférer ailleurs, voire de t'envoyer en prison. Et donc ce cercle infini de mesures qui t'amènent à être toujours coupable, enfin qui vont t'amener à cet état d'éternel coupable qui peut rien faire d'autre.
Oui, alors bon, ma situation est un petit peu médiatisée. Le premier article qui fait date, c'est l'article du Monde qui s'intitule Le prisonnier du village. Et cette médiatisation est assez importante parce que, pour le coup, c'est une forme de relative protection qui fait que je ne me retrouve plus en face à face avec le ministère de l'Intérieur, mais que il y a une espèce d'humanisation de ma situation et que on ne me voit plus par le prisme simplement de la personne qui a été condamnée pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Donc à un moment, je me retrouve de nouveau transféré, cette fois-ci donc à Lacaune, dans le Tarn. Donc je suis toujours à 4 pointages par jour. Et là, l'hôtel ferme de nouveau pour les fêtes. Et donc je suis déplacé à Carmaux, dans le Tarn.
Donc j'imagine qu'à chaque déplacement, il y a un décret. Ce décret décrit précisément.
C'est un arrêté, en fait, Sana. C'est un arrêté d'assignation à résidence qui est délivré par le ministre de l'Intérieur.
D'accord. Le nombre de pointages, l'éventuelle prise en charge, l'éventuelle prise à la fois de la nourriture, les frais de bouche, comme tu nous disais, le logement. Est-ce que le ministère se justifie de ces changements ou pas du tout ?
Ah non, absolument pas. À chaque fois, la décision, elle est prise par le ministère de l'Intérieur et je n'en connais pas les tenants et aboutissants. Et en fait, je découvre ma destination une fois arrivé. C'est-à-dire que je ne sais même pas dans quelle commune je me rends. Et le dernier transfert, en fait, il se fait le 27 novembre 2016. Donc là, le préfet du Tarn, le 30 septembre 2016, il ordonne une perquisition administrative du domicile familial. en application donc de la loi du 3 avril 55 sur l'état d'urgence, puisque là on est en plein état d'urgence, les 2 ans d'état d'urgence après les attentats qu'il y a eu en 2015. Et donc c'est à la faveur de cet état d'urgence que le préfet du Tarn ordonne une perquisition administrative, essaye de me coller des nouveaux éléments, n'ayant rien trouvé, puisque tout mon matériel et celui de ma femme et de mes enfants est saisi, aussi bien les ordinateurs que les téléphones, enfin tout matériel électronique est saisi, et s'est rendu 17 jours après, sans aucune mise en cause juridique. Mais le mal est fait, et donc je suis éloigné le 27 novembre 2016 en Charente-Maritime à Saint-Jean-d'Angély, où là, on m'instaure 4 pointages quotidiens, plus un couvre-feu entre 21h et 7h du matin. Surrender, this I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often, I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them.
J'ai changé de nom, la clandestinité m'a happé, une soif de révolution. Vivre dans l'indifférence m'était insupportable. J'ai dit au revoir à ma famille et suis parti vers l'insurmontable. Traverser des villes, des guerres et des montagnes, perdu beaucoup mais peu si le peuple gagne. Mon corps gît dans la mémoire de mes frères d'armes. Partisans, je garde mon fusil, je vous remets mon âme. Résistant d'hier, d'aujourd'hui et demain, militant fier qui prend son destin à deux mains. L'une sur la machette, l'autre sur un bouquin. Viens, le vent se lève autant que se lèvent nos poings. Partisans du François, ici et maintenant. Des lendemains qui chantent, des soleils levant. Des veilles de passage à l'action où l'on se dit adieu. De lutte, d'entraide, d'espoir en un futur radieux.
J'ai changé 100 fois de nom.
Dans une deuxième moitié d'émission, on aimerait revenir sur tout ce que tu as fait pour essayer de te dégager de cette situation, parce que c'est peu de dire que tu tu as bataillé. Alors, on ne va pas s'attarder là-dessus, c'est juste pour l'évoquer. Tu as par exemple soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Tu as demandé au Conseil constitutionnel si cette assignation à résidence sans fin était bien légale. Et le fait est qu'à quelques nuances près sur lesquelles on va, dans lesquelles on ne va pas rentrer, le Conseil constitutionnel a dit que oui, c'était bien légal.
Alors, c'est pas tout à fait ça. En réalité, le Conseil constitutionnel a dit que non et il a soulevé des éléments qui pour améliorer en quelque sorte la loi. Mais le Conseil constitutionnel, alors c'est vrai que la formulation est un petit peu ambiguë, mais le Conseil constitutionnel a dit en substance qu'on pouvait que l'assignation à résidence était une mesure restrictive de liberté et non une mesure privative de liberté. Et que par conséquent, on pouvait potentiellement assigner à résidence éternellement, enfin en tout cas sur sans limite de durée, une personne, mais que par contre, il fallait au bout de 5 ans déterminer s'il était loisible, enfin qu'il fallait étudier les conditions de cette personne-là.
Qu'il fallait, au-delà de 5 ans, qu'il fallait quand même justifier de circonstances particulières pour imposer le maintien de l'assignation.
Voilà. Et donc, moi, j'ai cru qu'en fait, c'était tous les 5 ans que la décision était analysée, depuis la décision du Conseil constitutionnel. Oui. Mais en fait, non. Le ministère de l'Intérieur rétorque qu'il suffit d'analyser la situation une seule fois, et puis ensuite on peut assigner à résidence une personne indéfiniment.
Et alors du coup, donc ton assignation à résidence au départ, elle est liée au fait donc, que tu es interdit du territoire français.
Oui.
Et donc pour essayer de te sortir de cette histoire d'assignation à résidence sans fin, tu as mené un combat, d'après ce qu'on a compris, sur un peu deux fronts, essayer de casser cette interdiction du territoire, et de l'autre côté, essayer de faire annuler les décrets d'assignation à résidence.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer ces deux fronts et comment toi, tu peux, du coup, qu'est-ce que tu peux invoquer entre guillemets, et comment en face de toi, qu'est-ce qu'on te renvoie pour dire non, on maintient depuis 17 ans ces règles?
En fait, la mesure d'assignation à résidence, c'est une mesure hybride, c'est-à-dire qu'elle a un volet judiciaire et un volet administratif. Le volet judiciaire, il est lié à l'interdiction définitive du territoire français, qui est une mesure complémentaire en fait de la décision pénale de la Cour d'appel de Paris. Donc, face à cette décision d'interdiction définitive du territoire français, je peux faire des demandes potentiellement tous les ans, je peux faire ce qu'on appelle une demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, c'est-à-dire demander à ce que cette mesure complémentaire de la décision pénale soit annulée, ou en tout cas relevée, comme on dit dans le jargon du droit. Donc j'ai fait 3 demandes, la dernière en date c'est le 19 février 2020, je comparais devant la Cour d'appel de Paris pour ma 3e demande de relèvement en IDTF, et donc à chaque fois en fait la Cour d'appel de Paris va donc statuer, et le ministère de l'Intérieur va lui fournir un certain nombre d'éléments, et notamment ce qu'on appelle des notes blanches, c'est-à-dire ce sont des documents rédigés par un officier du renseignement, qui sont ni datés ni signés, et qui vont en quelque sorte argumenter sur le fait que ma présence sur le territoire français constitue une violation de l'ordre public.
Est-ce que toi, tu y as accès Est-ce que toi et ta défense, ton avocat ou ton avocate, avaient accès au contenu de ces notes blanches?
Alors, jusqu'à il y a très peu de temps, parce que la loi a changé entre-temps, on avait accès, en fait, en partie, à ces notes blanches. Il fallait les demander. Ces notes blanches-là, elles étaient parfois caviardées. On nous fournissait une partie de ces notes blanches. Et ces notes blanches, on les appelle blanches parce que c'est un document qui est non daté, non signé et non circonstancié. C'est-à-dire que, par exemple, une fois, dans une note blanche, on m'a reproché d'avoir signé une pétition en faveur d'une personne qui faisait une grève de la faim, qui était mise en examen dans une affaire qui n'a rien à voir avec la mienne, mais qui relève aussi de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Et le simple fait d'avoir signé cette pétition, ça m'a suffi à être signalé dans une des notes blanches. On m'a, par exemple, reproché d'avoir commis un livre et d'avoir explicité un peu ma situation. Alors, bien sûr, on a considéré que ça relevait quand même de la liberté d'expression. Ceci dit, il est écrit noir sur blanc que alors le terme, c'est que j'utilisais en excès ou de façon extensive ma liberté d'expression. Donc c'était assez marrant, mais on m'a reproché tout un tas de choses. Par exemple, quand il y a eu les attentats en France pendant l'état d'urgence, on a essayé de me rattacher à tout un ensemble de filières qui n'ont absolument rien à voir avec mon dossier.
Ce que tu expliques, c'est qu'à travers ces notes blanches, tu es sans cesse renvoyé notamment au sujet à ta condamnation pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
Voilà, mais tout ce que je fais, en fait, je fais par exemple, je présente mon livre dans une librairie sur la note blanche, il est écrit que j'ai présenté mon livre en visioconférence dans une librairie anarchiste. bon, enfin, tout est prétexte, en fait, à... et alors, ça devient tellement kafkaïen que... À un moment, au niveau de la cour d'appel, lorsque je dois défendre justement mes intérêts, la procureure qui a été une des procureurs qui a traité l'un des dossiers de terrorisme pendant la période de 2015, me dit « Monsieur Daoudi, en fait, ce qu'on vous reproche, c'est pas tellement d'être proche de la mouvance islamiste ou quoi que ce soit, puisque vous êtes capable... d'apparaître dans des notes blanches aux côtés de, enfin, vous êtes cité dans des notes blanches aux côtés de personnes qui sont des dossiers complètement différents, qui relèvent de la gauche radicale ou bien, et en fait, elle me dit, pratiquement mot pour mot, ce qu'on vous reproche, monsieur Daoudi, en fait, c'est votre radicalité, quelle qu'elle soit. Et donc, en gros, voilà, ça va pas être possible de relever votre interdiction du territoire français parce que, bah, tout simplement, on me reproche d'essayer de sortir de cette impasse par tous les moyens légaux, donc juridiques, médiatiques.
J'ai quand même une question là-dessus. Toi, oui. À l'appui de ta situation, à l'appui de ta demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, c'est toute oui. une expression, qu'est-ce que tu avances ? Tu avances, parce qu'on sait que la justice aime bien les choses d'intégration, qu'est-ce que tu avances à l'appui de ta demande ?
Ben, j'avance le fait que je fais partie des catégories protégées, puisque je suis en France sur le territoire, je suis sur le territoire français depuis l'âge de 5 ans, que toute ma famille réside en France, que mes frères et sœurs sont de nationalité française, que mes parents sont nés avant l'indépendance de l'Algérie, donc ils peuvent à tout moment réintégrer la nationalité française, que j'ai vécu le plus clair de mon temps en France, que je suis intégré par la langue, par la culture, que ma femme est française, que mes enfants sont nés sur le territoire français. Enfin, en gros, on me dit, votre famille devra choisir entre vous suivre éventuellement dans un pays d'accueil ou alors vous devrez abandonner votre famille, quoi. En gros, c'est ça qu'ils me disent. Ils me disent, vous n'avez pas vocation à rester sur le territoire français et on fera en sorte que vous quittiez le territoire français. Même si ça doit prendre des années, ça a pris déjà 17 ans, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ont été complexes et le sont encore. Et de toute façon, les autorités algériennes ne souhaitent pas m'accueillir sur le territoire algérien que j'ai quitté à l'âge de 5 ans. Il y a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit clairement que mon retour sur le territoire algérien poserait de sérieuses questions sur plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il y a un risque non négligeable de traitement dégradant ou inhumain.
Justement, à côté de cette contestation de l'IDTF, donc on parlait de deux fronts, tu t'étais attaqué aussi à l'assignation de résidence en, en voulant faire annuler les décrets d'incrimination. Est-ce que tu peux nous...
Alors, sur le volet maintenant administratif, oui, j'ai contesté à chaque fois tous les arrêtés d'assignation à résidence en essayant par tous les moyens de contester toutes les notes blanches auxquelles j'ai pu avoir accès pour montrer qu'elles relevaient... enfin, qu'elle n'était ni circonstanciée, ni datée, ni signée, et que, en fait, la lecture que faisait le ministère de l'Intérieur de toutes les choses qui m'étaient reprochées se faisait sur le prisme de mon ancienne condamnation, et j'essayais de démontrer en réalité que toutes leurs affirmations étaient galvaudées et que leur lecture était biaisée.
Est-ce que tu as obtenu des résultats Est-ce que ça a déjà marché?
Alors, le seul résultat concret que j'ai obtenu, c'est de diminuer le nombre de mes pointages, puisque j'étais à 4 okay. pointages quotidiens. Donc, la cour administrative d'appel a considéré que c'était en quelque sorte un abus de la part du ministère de l'Intérieur m'obliger à pointer 4 fois par jour en plus d'un couvre-feu. Donc, ce qui faisait en réalité 6 pointages, puisqu'il y a les 4 pointages plus une obligation d'être dans la chambre d'hôtel entre 21h et 7h du matin.
Bon, il y a quelque chose qui m'a pas mal intéressé dans le livre que tu as publié aux éditions du Bout de la Ville et qui s'appelle « Je suis libre dans le périmètre qu'on m'assigne ». C'est le chapitre « Une audience ». Dans ce chapitre-là, tu parles d'une inversion de la charge de la preuve.
Oui.
Et ça, c'est assez intéressant, on comprend bien dans ce que tu nous dis là, c'est-à-dire que tu as en face de toi des gens qui finalement, quelque part, se donnent très peu de mal pour expliquer que tu serais une menace à l'ordre public, vu que des notes blanches imbéciles ou vides de sens, de toute façon, ils finissent toujours in fine par te ramener à la condamnation initiale. Donc ça, c'est très intéressant. Cette inversion de la charge de la preuve, est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais nous dire là-dessus pour développer un peu ce propos?
Et bien là, en fait, oui, en fait, on se retrouve un petit peu comme dans le film Minority Report. C'est-à-dire qu'on doit démontrer que quelque chose n'est pas vrai. Et bien sûr, démontrer que quelque chose n'est pas vrai, ça n'est pas possible. Et tout ce que je fais est vu avec le prisme du terrorisme. Donc, des choses qui sont complètement anodines deviennent potentiellement des signes d'accusation. Et en fait, on est dans l'inversion de la... parce que normalement, dans le droit, c'est la personne ou la partie qui accuse qui doit fournir les preuves. Là, on se retrouve accusé de choses qu'on n'a pas faites et on doit démontrer son innocence.
Voilà. Et la seule preuve en face, effectivement, c'est tu as été condamné pour terrorisme, ta peine est purgée,
mais c'est pas grave. Voilà, on nous ramène tout le temps à ça. Donc c'est terroriste un jour, terroriste toujours, à supposer même que le qualificatif de terrorisme soit vrai. Parce que là, on est dans l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Donc on est largement en amont d'un quelconque délit.
Donc là on a vu avec toi, donc tu as essayé de relever de ton interdiction définitive du territoire français, de contester les décrets d'assignation. Oui. Et alors on a vu aussi que tu avais fait des démarches auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, tout à fait.
Si on a bien compris, une première fois ça a été retoqué. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et puis où est-ce que tu en es maintenant? Est-ce que c'est maintenant sur ce terrain-là que tu vas essayer de porter ton affaire?
Alors là, en fait, j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme une première fois. On m'a dit que je n'avais pas épuisé l'ensemble des recours internes, c'est-à-dire des recours au niveau de la France, au niveau des juridictions françaises. Donc, il me restait 2 recours à faire, un devant la Cour d'appel de Paris, un autre devant la Cour de cassation, si mes souvenirs sont bons. Donc, j'avais expliqué en communiquant mon mémoire que de toute façon, ces recours n'avaient aucune chance d'aboutir puisque la jurisprudence en France considérer que l'assignation à résidence, même sur une période très longue, n'était pas une mesure privative de liberté, mais une mesure restrictive de liberté. Et donc, ces recours n'avaient absolument aucune chance d'aboutir. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme m'a quand même demandé de faire ces recours-là. Je les ai faits et une année après, donc j'ai de nouveau saisi la Cour européenne des droits de l'homme après avoir démontré que j'avais fait ces recours et que ces recours n'avaient pas abouti. Et donc, le 3 avril 2025, il y a un juge unique de la Cour européenne des droits de l'homme qui a rejeté ma requête en estimant qu'il n'y aurait aucune apparence de violation de mes droits fondamentaux. Wow. Et donc, la décision a été particulièrement dure pour moi et mes avocats parce que ça a été rédigé en 4 lignes. En 4 lignes, le juge unique, alors qu'a priori, ma requête devait passer devant, devant 3 juges. On m'a dit, non, circulez, il n'y a rien à voir, votre requête n'a aucune apparence de violation. Donc moi, j'ai dénoncé cette requête, j'ai demandé donc la réouverture de mon dossier, c'est une procédure très exceptionnelle, et j'ai estimé que cette décision est entachée de graves erreurs. Donc j'ai dénoncé que cette décision que n'a pas de réelle motivation, et donc ça ne me permet pas de comprendre pourquoi mes droits sont ignorés. Mon deuxième élément, c'est de dire qu'il y a eu de multiples violations, donc l'interdiction de territoire, la vie de famille brisée, la liberté de circuler et de travailler qui ont été confisquées. Et j'ai estimé que l'examen était bâclé et que les critères de recevabilité étaient mal appliqués, alors que j'ai épuisé toutes les voies de recours en France. J'ai estimé que mes droits fondamentaux étaient bafoués parce que j'estime que je subis une privation de liberté, alors même que la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà reconnu en 2009 que mon renvoi vers l'Algérie m'exposait à des risques de traitement inhumain et dégradant. Et donc, en fait, depuis, ma vie est suspendue à une mesure d'exception qui est renouvelée indéfiniment. Et donc, j'ai demandé à la Cour européenne des droits de l'homme de réexaminer mon cas. Et donc, j'attends la réponse. C'est une procédure qui est extrêmement rare, qui a très peu de chances d'aboutir, qui n'est pas, urgente. Donc, l'EMA a supposé que cette procédure soit examiné. Je ne sais absolument pas quand est-ce que j'aurai le résultat. J'espère l'avoir avant la fin de l'année, mais rien n'est moins sûr. Et enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, j'ai parlé beaucoup de moi, mais en fait, si j'ai pu tenir jusqu'à présent, c'est grâce à ma femme et mes enfants qui m'ont été d'un soutien inébranlable jusqu'à présent, qui ont eu leur vie complètement brisée, sans avoir eu la moindre condamnation. Donc, ce sont des pièces complètement rapportées. Et malgré tout, le ministère de l'Intérieur et le gouvernement français, plus généralement, a eu un comportement, inhumain vis-à-vis de ma femme. Ma famille et moi, on arrive à bout, quoi. Au bout de 17 années, notre vie, et particulièrement la vie de ma femme et de mes enfants, est saccagée.
L'ensemble est d'une immense violence. On te remercie beaucoup d'être
là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous et bon week-end.
Salut.
Voilà,
c'est la fin de cette émission et de cette série sur la justice antiterroriste. On se retrouve en janvier, le deuxième jeudi à 19h pour une nouvelle émission de Tapage sur Canal Sud 92.2. Au revoir.
Comme le juge avait mal mangé, le premier prévenu fera 1 an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat, on serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 1 an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS injection d'un haut fonctionnaire en fonction. Pas de chance, pense l'avocat. Monsieur le juge, j'aurais mieux digéré. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Tila da di 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 do da, do do da di do da, do do ti da di do da. Tila da di 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 do da, do do da di do da, do do ti da di do da. Tila da di 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 do da, do do da di do da, do do ti da di do da.
Bon, je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.